Bonjour, je suis Thomas Bortolato. Vous écoutez la librairie des étudiants, une capsule auditive de Radio Campus Grenoble. Bonne écoute. Eh bien bonjour, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau podcast de l'été de la librairie des étudiants. Aujourd'hui encore, nous poursuivons notre déambulation à travers les librairies du département et de la région. Aujourd'hui, je vous propose de rencontrer Nicolas, Nicolas qui est directeur de la librairie Le Square, située au centre-ville de Grenoble, à deux pas du lycée Champollion. Voici maintenant l'entretien réalisé avec Nicolas dans la librairie Le Square à Grenoble. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Merci de me recevoir ici dans votre librairie, la librairie Le Square. Quelle est l'histoire de ce bâtiment ?
C'est une librairie qui, cette année, en 2024, aura 70 ans. La librairie, elle a été fondée en 54. Pas exactement où elle est aujourd'hui, mais à deux rues. De ce que l'on m'a raconté ou de ce que j'ai recoupé, elle a ensuite trouvé sa place ici, 2 ans après. Au tout début, elle n'occupait que le rez-de-chaussée de la première pièce. Donc voilà, ça c'est les histoires de lieux qui grandissent comme ça, de même. Et la librairie, c'est un monsieur qui s'appelait Monsieur Le Terrier, qu'il avait fondé. Et la librairie a ensuite été reprise quand il est parti à la retraite, qu'il a dû la vendre. Elle a été reprise en 78. Voilà. Et elle existe sous cette forme depuis. Voilà.
Donc, telle qu'on la connaît aujourd'hui,
oui,
elle est comme ça.
C'est ça.
Comment vous êtes devenu libraire, vous ? Est-ce que vous avez toujours été libraire ou est-ce qu'il y a eu un parcours différent avant ?
Alors, chez les libraires, on a souvent des parcours sinueux. Et pour ma part, je crois que j'ai toujours aimé, en tout cas, la compagnie des livres. Je m'autorisais peut-être pas, quand j'étais étudiant, à envisager la possibilité de devenir libraire, mais j'avais fait un travail de sociologie. J'étais étudiant un temps en sociologie à Bordeaux, et j'avais fait un travail d'enquête sur les bouquinistes à Bordeaux. Et à un moment, je me suis dit, non, mais tu ne vas pas vivre par procuration une passion, mais la vivre vraiment. Et comment je le suis devenu ? La première chose, c'est parce que j'étais un lecteur compulsif. Et puis, la deuxième, c'est que je me rendais compte aussi que tout mon temps libre, je le passais à hanter les rayons et à les reprendre. Et j'avais la chance, oui, d'être à Bordeaux avec de très bonnes librairies. Et aussi, j'assistais à plein de rencontres. Donc, voilà, je me suis dit, non, fais-en le lieu de ton travail, ta passion.
Du coup, lecteur compulsif pendant vos études, est-ce qu'il y a des grands livres qui vous ont marqué, comme ça, à la volée 2-3 ?
Bon, dans les tout premiers, bien sûr, il y a eu Yakari, mais ça, j'avais 6 ans. Mm-hmm. Mais ensuite, quand j'ai été étudiant, oui, parce qu'il y a un déclic, il y a un moment où vous autorisez des lectures. C'est-à-dire qu'il y a, bien sûr, tout ce corpus qu'il faut... Qu'il faut appréhender, dont il faut s'emparer. Et puis, il y a le moment où ça devient buissonnier. Et puis, c'est là que vous faites les vraies rencontres. Et ça, je crois que c'est décisif. Alors, il y en a eu, bien sûr, il y a des lycées, en fait. Quand j'ai découvert Céline, j'ai découvert un rythme, une pulsation, une outrance. Je me suis dit, mince, la littérature, c'est ça aussi. Je pense aux étudiants qui peuvent nous entendre. Je me souviens d'une fois où je devais rendre un mémoire, j'étais complètement bloqué dans l'écriture. Et puis, j'ai tout laissé en plan, alors que le temps vraiment l'a pressé beaucoup. et j'ai lu La vie mode d'emploi de Pérec. Et dans une jubilation totale, en un temps très court. Et ça a débloqué. Ça a débloqué l'écriture. C'est que derrière, je me disais, bah oui, mais on peut, autorise-toi, vas-y, voilà. Donc il y a eu ça, et puis au même moment, je découvrais aussi, je crois, quelqu'un qui est important pour ma génération, mais Raymond Carver. Et donc cet art de la nouvelle, où vous faites effraction avec lui dans un moment de réel, de crise, et il vous laisse en plan en plus. Donc ça, oui, ça a été très fort.
Alors, avec quel titre pour Céline et pour Raymond Carver?
Oh ben Céline, le voyage forcément, le voyage
Oui.
au bout de la nuit. Pour Raymond Carver, ben c'est Tais-toi, je t'en prie, ou Les vitamines du bonheur, enfin tous ces recueils de nouvelles, au hasard, peu importe.
Donc ça, c'est pour, on va dire, les classiques.
Ouais.
La rentrée littéraire est là. On
Oui.
foisonne complètement. Pour un
Oui.
libraire, je crois que c'est le moment le plus important de l'année,
Il y en
si ce
a,
n'est avec
enfin.
l'arrivée du Goncourt.
Tous les moments sont importants. Le moment le plus important, c'est celui où on va pouvoir transmettre et parler de ce que l'on aime au lecteur. Donc tout est important. Mais bien sûr, non, mais c'est pour faire le malin. Mais y a... non, c'est d'autant plus important et excitant parce que on a lu tous ces livres un peu en avance pour pouvoir les accueillir justement. Et on peut enfin en parler. Donc oui, c'est important. Et donc vous vouliez savoir.
Bah, vos coups de cœur en cette rentrée littéraire, quand
Dans
même,
cette rentrée,
effectivement.
eh ben, il y en a plusieurs. Effectivement, il y a à la fois un temps où on retrouve des auteurs que l'on aime particulièrement, dont on connaît la voix et on veut savoir où elle va. Et il y en a une que j'aime particulièrement, c'est Maëlys de Kerangal. Son dernier livre, Jour de ressac, est vraiment étonnant parce qu'il condense tout son art. C'est-à-dire qu'il y a. C'est une journée décisive dans la vie d'une femme. C'est une femme qui, alors qu'elle vit à Paris, elle reçoit un appel de la police du Havre et sur un corps, on a découvert un numéro de téléphone. Il tente, c'est elle. Et donc elle va au Havre, sa ville de naissance. Et là, dans une journée de déambulation dans la ville, c'est comme si le passé, tout le passé, tout le passé souterrain ressurgissait. Voilà. Donc ça, avec sa langue si nerveuse, enroulée, elle arrive à nous transmettre ça. C'est aussi des moments où on découvre de nouvelles voix. Alors ça, c'est le plus excitant parce qu'on voit émerger un auteur. Alors il y a un jeune auteur belge, Célestin de Meus, qui fait un livre qui s'appelle Mythologie du 12 aux éditions du Sous-Sol. En fait, quand on ouvre, on est absolument saisi par la maîtrise de la langue. C'est un primo romancier, mais en fait c'est un poète, et il a déjà publié plusieurs recueils et ça se voit déjà, il y a une maturité incroyable. On va suivre deux garçons qui sont en train de zoner sur un parking dans le nord de la France, ils s'ennuient, ils picolent, ils fument des joints, et c'est une des voix du livre, et en parallèle on voit un homme fatigué, c'est un médecin. Sa femme l'a quitté, il finit une journée de travail harassante et il rentre chez lui avec l'idée de boire un verre. Et tout le livre est en tension parce que ses destins vont se croiser dans une explosion de violence. Et ce qui est saisissant, c'est comment cette histoire va nous être racontée et comment rien n'est défini, rien n'est joué totalement. Ça, c'est très beau.
Alors du coup, dans cette rentrée littéraire, comme vous l'avez dit, il y a à la fois les grandes voix, comme avec Maëlys de Kerangal qu'on attend, les nouvelles, comment vous faites en tant que libraire pour vous dire, tiens, celui-là est un primo-romancier, je vais me plonger dans ce roman. Est-ce que vous faites un repérage par rapport à ce qui est envoyé par les maisons d'édition? Comment ça fonctionne?
Alors effectivement, la première chose, c'est on lit beaucoup. Et ça, tout notre travail, ça va être ça, c'est de lire. Après, on ne peut pas tout lire.
À 459 romans, oui, vous
Voilà.
n'avez pas forcément le
Donc,
temps.
il y a différents prismes, enfin, pour nous aider. C'est-à-dire que, il y a les maisons d'édition qui nous présentent les livres, il y a les représentants de ces maisons d'édition qui en ont lu aussi, avec lesquels on discute. Et puis après, il y a ce que l'on pressent, ce que l'on hume, ce que l'on ce le ce, ce ce vers quoi on veut aller, parce qu'on a cette connaissance du paysage.
D'accord. Très bien. Bon, pour ce petit point, méthode de libraire, on va appeler ça comme ça. Vous avez peut-être d'autres coups de cœur en cette rentrée?
Je peux au moins vous parler, parce qu'on n'a pas parlé d'auteurs étrangers.
Oui.
Il y a un auteur que j'aime particulièrement, c'est son deuxième livre. Il s'appelle Benjamin Labattu. Il est chilien. Et c'est un auteur assez fascinant parce que c'est un physicien de formation. Il va écrire sur la science, mais ce qui l'intéresse, c'est un peu les fous de science. C'est l'usage que l'on va faire de la science. Donc c'est une lecture littéraire de la science. Et là, le livre s'appelle Maniaque. Maniac, c'est un acronyme pour un projet autour de la bombe atomique, en fait.
D'accord.
À travers trois moments, mais surtout un moment fort, c'est un personnage qui est von Neumann, qui est l'inventeur de la théorie des jeux, mais pas que. On va voir comment, de la recherche sur l'atome, on est passé à l'intelligence artificielle et comment tout échappe. C'est ça l'intérêt de ce livre et dans un récit éminemment littéraire
Donc est-ce que là
qui se donne à tout.
est-ce qu'on peut aussi du
Ça.
coup faire un lien avec notre actualité justement sur l'intelligence artificielle?
Complètement. Enfin, c'est un livre qui en fait va vous donner l'archéologie. C'est comment on en est arrivé là. Voilà.
Très
Et
bien.
quelle boîte de Pandore peut-être on a ouverte.
Ah, bon ça on le verra dans quelques années peut-être.
Voilà. Et sinon, un tout autre écrivain, bah alors que j'aime énormément, qui s'appelle Marco Lodoli,
Oui.
écrivain italien de Rome. Et là, il fait un livre très bref, hein, qui s'appelle Si peu. Et j'aime particulièrement ces livres brefs, très denses. Hein. Et là, c'est. Ce livre a déjà tout d'un classique, je vous assure. C'est l'histoire si simple d'un amour à sens unique. C'est une femme, on est peut-être dans les années 80-90, qui va tomber, une femme simple, qui a un petit emploi à l'intendance d'un lycée, et elle va tomber éperdument amoureuse, mais dans un flash, lorsqu'il apparaît, d'un professeur. Et ne jamais dire cet amour. Mais cet amour va devenir une obsession. Et on suit cette vie amoureuse dans une Rome inconnue, enfin de nous, inhabituelle, et où le livre est étonnant et très beau, c'est que ce personnage est complexe. Non, c'est magnifique.
À rajouter donc dans la pile à lire, la fameuse pale.
Forcément.
Vous animez des rencontres tout au long de l'année?
Exactement. Toute l'année, on a une quarantaine de rencontres à la librairie avec cette idée que c'est un atelier que l'on offre. Donc c'est l'atelier de l'écrivain, l'atelier du poète, on reçoit des poètes aussi, l'atelier du penseur, on reçoit des historiens, des philosophes. Enfin, c'est vraiment donner une heure d'échange avec une créatrice, un créateur, et aller vraiment dans le fond de ce qu'il a fait, de son œuvre, et aussi que chacun puisse lui poser une question, enfin dans un échange après. Voilà. On ouvre cette saison avec un formidable passeur, c'est Alain Mabankou. Alain Mabankou est écrivain, c'est un écrivain de langue française, d'origine africaine, il vient du Congo-Brazzaville. Il a écrit plusieurs romans qui se passent au Congo-Brazza, Petit Piment notamment, mais c'est aussi un professeur. Et depuis 20 ans, il est professeur à l'UCLA, l'Université de Los Angeles, de littérature francophone, surtout littérature africaine. Il a été professeur invité au Collège de France en 2015, si je me souviens bien la date. Et il fait à côté des livres, souvent sous forme de lettres. Il avait fait une lettre à James Baldwin, mais il fait des livres pour justement faire passer la culture noire entre ces trois pôles, entre l'Afrique, la France et les États-Unis. Et là, c'est une lettre qu'il adresse à Angela Davis, la grande figure de la contestation noire
Oui.
et de la révolte noire. Et le livre, c'est cette femme qui nous regarde et qui nous regarde, qui nous traverse et qui va éveiller la révolte toujours et surtout recréer une fraternité.
Cette rencontre, elle a lieu
Le
quand?
12 septembre,
12 septembre.
à la librairie, à 19 h, l'entrée est libre. On conseille de réserver avant, auprès de nous, en nous appelant, en venant. Mais oui, elle est ouverte à tous. Venez,
Donc
venez.
le premier
Le premier,
d'une
donc,
grande
le 12
série.
septembre, d'une grande série où vous pourrez aussi entendre plusieurs écrivains étrangers, écrivains américains, et pas des moindres, des plus grands, qui s'appellent Richard Ford, qui était un très grand ami de Raymond Carver, dont on parlait. Ron Rash, aussi, qui est un très, très grand écrivain. Il y aura aussi un des plus grands professeurs de littérature, parce que c'est le professeur honoraire maintenant du Collège de France, membre de l'Académie française, mais Antoine Compagnon, qui fait un essai justement de réflexion sur l'acte de lire. La littérature, ça paye, il a appelé ça. On aura aussi des écrivains connue, enfin ou dont on parle beaucoup de cette rentrée, Aurélien Bélanger, qui a fait un livre politique et passionnant sur les 20 dernières années, qui s'appelle Les derniers jours du Parti socialiste. On recevra aussi Maëlys de Kerangal, dont on parlait, ou Kamel Daoud, ou Gaël Faye aussi, dans une lecture musicale que l'on co-organise avec le musée.
Oui.
Enfin, Miguel Bonnefoy, enfin, plein d'occasions. Regardez notre programme, il est sur notre site www.librairielesquare.fr ou .com.
Et donc après pouvoir aussi peut-être repartir avec une dédicace éventuellement,
Ben ça,
un petit souvenir.
bien sûr, c'est le cadeau.
Souvenir intemporel. Merci beaucoup Nicolas.
Je vous en prie, c'est moi.
Voilà pour cet entretien réalisé avec Nicolas, directeur de la librairie Le Square de Grenoble. L'intégralité des ouvrages dont nous avons parlé avec Nicolas sont bien sûr à retrouver en description du podcast de notre chronique du jour. Je vous donne bien sûr rendez-vous la semaine prochaine pour pousser de nouveau une porte d'une librairie. D'ici là, passez un bel été et surtout, je vous souhaite d'avoir de belles lectures.